grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Pour notre invité ce matin, la situation est grave et presque désespérée. Muni de solides preuves, le neuroscientifique Michel Desmurger affirme que les outils numériques entraînent des problèmes d'attention, de langage, de mémorisation, d'agressivité, de sommeil ou encore de réussite scolaire. Ce directeur de recherche à l'INSERM tire la sonnette d'alarme, la surexposition aux écrans affecte gravement le développement intellectuel de nos enfants. Pour lui, nous sommes en plein déni, souvent intoxiqués par des experts soumis à des conflits d'intérêts, à certaines études scientifiques peu fiables ou encore au lobbying des industriels du secteur. Michel Desmurger publie « La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants » et c'est à mon humble avis un ouvrage de salubrité publique. Toutes vos questions sur l'influence des écrans sur les enfants et les adolescents au 01 45 24 7000, sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, sur le site et l'appli France Inter. Vers 10h35, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce. Vous l'entendrez, elle est très remontée ce matin. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebi.
Bonjour Michel Desmurger.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM, et vous venez donc de publier au Seuil « La fabrique du crétin digital ». 424 pages accablantes, dont 77 pages de notes bibliographiques. Pour vous, clairement, l'exposition précoce aux écrans est devenue un désastre absolu.
Oui, il y a clairement un problème. En fait, si j'ai fait ça, si je me suis obligé à mettre les références, c'est parce qu'on entend tout le temps, il n'y a pas d'études, on ne sait pas. Des études, il y en a, il y a des monceaux d'études. Ces études-là, elles sont dans leur quasi-totalité très convergentes, à montrer que effectivement, il y a des problèmes, il y a des problèmes de développement. Le cerveau de l'enfant, il est juste pas fait pour subir ce bombardement sensoriel, pour subir les écrans. Il n'a pas été câblé pour ça, par l'évolution. Et donc, on retrouve, ce que vous avez cité, on retrouve, mais de façon très net dans la littérature, c'est-à-dire c'est pas juste des opinions, c'est vraiment, il y a des dizaines et des dizaines d'études. Alors on retrouve des effets sur le développement du langage, mais on peut expliquer les causalités aussi pour ces choses. On retrouve des effets sur l'attention, sur la mémorisation, des effets qui passent par le sommeil, des effets qui passent, on en parle peu, mais on sait qu'un cerveau, pour se développer comme il faut, il y a un rapport entre le développement intellectuel et la capacité physique, donc on a aussi des effets sur l'activité physique, et tout ça, ça converge, parce que je suis bien conscient que la réussite scolaire dit pas tout d'un enfant. Cela étant dit, elle dit un certain nombre de choses de son développement intellectuel, de son développement émotionnel, de ses compétences sociales, parce que tout ça, ça converge à la réussite scolaire. Et on a des effets sur la réussite scolaire qui sont très très lourds. Oui.
De quels écrans parlez-vous ?
Alors, c'est une bonne question. Je parle essentiellement des écrans récréatifs, c'est-à-dire que on nous parle toujours des effets éventuellement positifs. Il s'agit pas de revenir à la charrue à bras. Il s'agit pas de dire que, il s'agit pas d'être technophobe et de dire que la roue pascaline c'était bien. Donc il y a des développements du numérique qui sont incontestablement plus que positifs. Je veux dire pour notamment dans la recherche, mais aussi au niveau de l'industrialisation, etc. Word, ça peut être pratique pour quelqu'un qui sait déjà écrire. Donc il y a tout un tas d'outils. Il s'agit pas de discuter ça. Les bases de données scientifiques, c'est super pratique. Cela étant dit, ça correspond pas à l'usage qu'en font les ados et les enfants. Et quand on regarde, on s'aperçoit que la quasi-totalité de ces usages sont des usages purement récréatifs, c'est-à-dire des films, des séries, des vidéos, des jeux vidéo, les réseaux sociaux. Il y a une petite anecdote que moi j'ai trouvée rigolote, c'est que même pour les plus grands, c'est-à-dire qu'il y a une grande université lyonnaise, s'est quand même senti obligé d'envoyer un mail en expliquant que ça serait que la bande passante de l'université, qui était surdimensionnée déjà, était saturée, et elle était saturée y compris pendant les heures de cours par un certain nombre d'applications. Je ne sais pas si on peut les citer, mais il y avait YouTube, il y avait Netflix, il y avait les réseaux Facebook, etc. Et donc il restait plus grand chose pour travailler.
Quelle a été votre méthode de travail ? Comment avez-vous procéder pour parvenir à la conclusion que nous fabriquons des crétins digitaux, que l'exposition précoce aux écrans est aussi nocive que le tabac. Comment vous avez travaillé, Michel Desmurger ?
J'ai peu dormi. Non, ça fait un moment, j'ai commencé à m'intéresser à ça pour un ouvrage précédent sur la télévision.
TV lobotomie.
TV lobotomie, donc. Et puis, il y avait déjà une énorme littérature. Et puis, les gens me disaient, oui, mais les autres écrans, c'est pas la même chose. Donc, j'ai fait un peu la même chose. C'est-à-dire que ça m'a pris quand même un peu plus de 3 ans. Voilà, je suis allé voir la littérature. Et puis, à partir de là, vous tirez les ficelles. Et puis, vous remontez d'étude en étude. Je m'attendais à ce qu'il y ait des études, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel monceau d'études. C'est vraiment l'un des champs les plus étudiés. C'est juste hallucinant le nombre d'études qu'il y a. Là, il y en a 1000 ou 1500. C'est juste une fraction des études disponibles. J'ai sélectionné les meilleures. Donc voilà. Donc j'ai pris cette littérature et j'ai fait mon travail pour lequel on m'a formé.
D'abord quelques chiffres tirés de votre livre. Chaque année, un élève de maternelle passe environ 1000 heures devant un écran. Un élève de CM1, CM2 environ 1700 heures et un lycéen environ 2400 heures. C'est énorme.
Oui, alors en fait, on se rend pas compte parce que quand on dit une heure par jour ou 2 heures par jour, c'est pas beaucoup. Un gamin qui va passer une fois dans l'année 2 heures sur un écran, c'est pas un problème. Le problème, c'est que ça se cumule et de jour en jour, vous obtenez des effets qui sont importants. Un exemple, il y a même pas un à la une heure. J'avais dit par ailleurs et un collègue m'est tombé dessus parce que j'avais dit dès un quart d'heure par jour. Effectivement, il y a des études qui montrent chez le jeune enfant notamment qu'on a des déficits et un quart d'heure par jour, ça fait pas beaucoup. Mais d'une part, ce quart d'heure, il va prédire les usages ultérieurs. Mais même en dehors de ça, si ce quart d'heure vous l'utilisez par exemple à lire des histoires à l'enfant. Alors, même si vous lisez lentement, ça va faire entre 750 000 et 850 000 mots entendus à la fin de l'année, ce petit quart d'heure chaque jour. C'est énorme à cet âge-là.
Alors, vous partez en guerre contre l'enthousiasme général face à cette génération réputée si habile avec le numérique. Je pense, par exemple, à ces adultes qui s'extasient quand leur enfant de 2 ou 3 ans sait manipuler une tablette. Vous pourfendez le mythe des digital natives, cette génération née avec le numérique au cours des années 2000-2010. Vous déboulonnez le mythe de l'enfant mutant. Non, le cerveau des nouvelles générations n'a pas été transformé par les écrans. Nous avons peu ou prou le même cerveau que les enfants nés avant les années 2000 et même bien avant. Et c'est ce que répète à l'envi une chercheuse comme Elena Pasquinelli que nous avons reçue à plusieurs reprises, chercheuse à l'Institut Jean Nico à Paris. Non, le cerveau des digital natives n'est pas différent du vôtre, du mien.
Ah non, c'est bien. Alors c'est bien un problème. C'est-à-dire que il y a cette idée, il faut vivre avec son temps et l'idée. Mais le cerveau des enfants de maintenant, c'est un cerveau qui a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années. Donc c'est un cerveau de vieux. Je suis désolé de le dire comme ça. Alors ce cerveau, il a des marges d'adaptation, mais c'est pas parce qu'il s'adapte un peu qu'il fonctionne de manière optimale. Donc le cerveau des digital natives et des autres, c'est exactement le même. Il y a une chose qui change, c'est que si vous faites faire des choses à un cerveau, qui sont des choses différentes, le cerveau va structurer différemment. C'est-à-dire que si tous les jours vous passez un quart d'heure à vous gratter le nez ou le sommet du crâne, il y a certaines zones de votre cerveau, effectivement, qui vont se développer différemment. Et de ça, donc, les gens qui jouent aux jeux vidéo, comparé à ceux qui jouent pas, ils ont un cerveau différent. Ça, on peut le dire. Il n'y a aucun problème avec ça. Ils ont effectivement construit un cerveau différent. C'est le même cerveau, mais il est construit différemment. Par contre, qu'on vienne nous dire que c'est parce que dans certaines zones, il est plus gros ou plus petit, ce cerveau, il est plus intelligent. Mais ça, quand même, c'est une esbrouffe quand même que personne n'avait osé. Parce que, à cette zone-là, il faut nous dire, il y a des gens, quand ils se font amputer, qui ont certaines zones du cerveau qui s'épaississent. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il faille amputer les deux bras des enfants pour les rendre plus intelligents. Pareil pour le cannabis, il y a un certain nombre de zones qui sont plus grosses. Donc le fait que le cerveau soit plus gros... En plus, c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui est constamment citée montrant voilà plus de matière grise, plus de connectivité cérébrale. Et vous comprenez à lire ces études et la relation qu'on a faite dans la presse que si vraiment vous n'avez pas une console de jeux vidéo à vos enfants ou des écrans, mais on va vous envoyer à la DAS, c'est quasiment de la maltraitance. Et quand vous regardez, il y a une zone qui s'épaississent, les quelques zones qui s'épaississent. Il y en a une qui est liée au contrôle du joystick. Même pas faramineux ni très transférable. Il y en a une autre qui est liée à la mémoire du jeu, en gros des chemins dans le jeu, c'est Super Mario. Et il y a une troisième zone qui s'épaissit un peu plus dans les aires frontales. Et ce qui est frappant, c'est que dans ces zones-là, toutes les autres études montrent que le cerveau, il s'épaissit pas toujours quand on devient intelligent. Des fois, il s'amincit. C'est un phénomène de maturation, on appelle le pruning, c'est-à-dire tout ce qui sert pas, on le jette. Et dans ces zones-là, il y a 2 autres études qui ont montré qu'on corrélait ça justement avec le développement de l'intelligence, qui montrent que plus les enfants utilisent des écrans, plus le QI va baisser. Et dans ces zones-là, typiquement celles qui sont développées, on s'aperçoit qu'il y a un amincissement et que le fait d'avoir dans ces études une zone plus épaisse à ce niveau-là, ça corrèle avec un développement perturbé du QI. Donc, c'est vraiment dire qu'ils ont un cerveau plus gros dans certaines zones, mais qu'ils sont plus intelligents. C'est une arnaque monumentale.
Michel Desmurgés, je vais me faire l'avocat du diable. On pourrait vous accuser d'être alarmiste, mauvais coucheur, outrancier, partial, d'être un gros ringard, un réactionnaire qui empêche nos enfants, nos adolescents de jouir tranquillement des écrans. Bref, quand on est excessif, on frise le ridicule.
Alors, je sais pas si je suis alarmiste. Cela étant dit, quand on va honnêtement voir la littérature, c'est alarmant. Donc il y a quelques raisons de s'inquiéter. Après, je cite un certain nombre d'effets positifs. On peut toujours trouver en tout des effets positifs. Il y a des effets positifs marginaux des écrans, on pourrait y revenir, jeux vidéo, etc. Mais c'est un peu comme, comment dire, vous allez dans une forêt dans le Jura, vous allez dans une forêt de conifères, vous trouvez deux cactus dont un tout pourri et vous nous dites que c'est représentatif de l'écosystème de la région. Donc c'est pareil, ça a été fait pour le tabac, c'est-à-dire que moi, je peux vous dire que le tabac, c'est super bien. Messieurs, dames, fumez, surtout si vous faites des sports d'endurance, parce qu'il y a des études qui montrent que le tabac, c'est bon pour la perte du poids, que c'est bon pour la fixation d'hémoglobine, etc. Donc, on peut toujours retirer comme ça des choses extrêmement marginales, mais quand on regarde l'ensemble de la littérature, je sais pas si je suis réac, je sais pas, mais en tout cas, c'est une inquiétude sincère pour ces enfants et leur développement.
Concernant les effets du numérique, quel chercheur, quel expert croire? Comment le grand public peut-il s'y retrouver face à l'avalanche d'informations apparemment contradictoires? Dans votre livre, vous vous interrogez sur la crédibilité et les conflits d'intérêts de certains experts du numérique. Vous prenez l'exemple, parmi d'autres, d'un psychologue clinicien français, expert en numérique, et fortement lié à l'industrie des écrans, que nous avons reçu ici, lorsque nous avons fait une émission sur les bienfaits des jeux vidéo. Vous m'avez dit hors antenne que c'était pas la meilleure émission que nous ayons fait dans Grand Bien Vous Fasse, c'est très honnête de votre part. Voilà, ça, le grand public ne le sait pas toujours.
Non,
et puis c'est pas aussi distinguer les études scientifiques très solides et celles qui sont beaucoup plus farfelues et beaucoup plus sujettes à caution.
Alors c'est pour ça qu'on vous appelle les médias et c'est pour ça que c'est un vrai métier et que n'importe qui se proclame pas journaliste du jour au lendemain. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre. Déjà les conflits d'intérêts, ils sont faciles à repérer. C'est-à-dire que si vous demandez une étude sur les pesticides, si elle est faite par Monsanto ou si elle est faite par c'est une information importante à connaître. Bah c'est pareil pour les écrans. Quand les gens font des études et travaillent pour l'industrie du jeu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les inviter, qu'il ne faut pas parler avec eux, mais ça veut dire que c'est quand même intéressant pour les gens qui écoutent de savoir ça. Après, il y a quelques garde-fous. Je ne sais pas comment sont formés les journalistes, mais il me paraît très important que dans la formation, c'est facile de repérer un expert. Je veux dire, il y a certaines bases de données, il faut aller voir s'il a publié, il faut aller voir dans quel journaux il a publié. Il y a une hiérarchie des journaux, ce n'est pas juste de l'élitisme. Des journaux scientifiques. Ça veut dire que dans certains journaux, vous avez des critères, les articles sont vraiment évalués, sont vraiment scannés. Dans d'autres journaux, c'est beaucoup moins. Puis dans certains journaux, c'est pas du tout. Et puis voilà, et puis vous avez le rattachement d'un expert à une session de recherche. Et puis surtout, si je peux me permettre, c'est pas parce que quelqu'un est expert dans un domaine qui va être expert dans un domaine connexe. C'est pas parce que quelqu'un connaît très bien l'autisme que vous allez pouvoir l'interroger sur les effets des écrans. C'est pas parce que quelqu'un connaît très bien l'attention ou connaît très bien le développement ou le développement de la lecture. Vraiment, les domaines de recherche et les littératures sont extrêmement précis.
Parmi les grandes stratégies pour décrédibiliser les solides recherches sur l'impact des écrans, il y a le fait de semer le ver du doute dans la pomme du savoir, je vous cite. C'est d'utiliser la stratégie du doute qui est chère à certains lobbies industriels.
Ça, on le sait depuis longtemps. Alors, ça a été développé, les premiers qui ont fait ça, c'est l'industrie du tabac. Et puis ensuite, les pesticides, le réchauffement climatique. C'est-à-dire que avec un ou deux experts complaisants ou iconoclastes, vous pouvez tenir pendant des années, voire des décennies, en respect le plus solide des champs scientifiques. Vous balancez le gars, effectivement, c'est facile. Ouais, c'est alarmiste, il y a des études contradictoires, le gars vous cite jamais lesquelles, etc. Donc c'est très facile, je veux dire, ça revient à ce que je vous disais avant, c'est très facile nimber d'une autorité de « je suis médecin, je suis psychiatre, je suis chercheur », de venir parler d'un sujet, et il suffit d'assez peu d'experts, parce que les journalistes, ils ont cette théorie qui est la théorie de l'impartialité. Une de vos collègues m'a dit un jour « ah oui, je suis d'accord sur ce rapport, mais je peux pas le dire parce qu'il faut que je sois impartial », et l'impartialité c'est un pour, un contre. Sauf que c'est comme pour l'échauffement climatique, si vous interrogez Allègre, et un pour, vous avez l'impression que c'est quasiment du 50-50.
Et sauf puis la démocratie, c'est pas à propos de l'antisémitisme d'inviter, c'est pas 5 minutes pour les nazis et 5 minutes pour les juifs.
Voilà. Oui, ce que disait je ne sais plus quel réalisateur. Ça... Oui, tout à fait. Et donc voilà, si vous en avez 100 qui disent noir et un qui dit blanc, il faut revient souvent dans les médias à donner le même poids aux deux parce qu'on veut que les deux camps entre guillemets soient représentés. Mais donc ça donne la fausse impression au public et aux gens qui écoutent qu'il y a un débat quand il y en a plus. Je veux dire, le réchauffement climatique, ça fait des dizaines d'années qu'il y avait plus de débat. Le tabac, les écrans, les jeux vidéo, il y a plus de débat. Je veux dire, c'est clos. Et pourtant, le débat, il perdure justement parce qu'on a ces quelques iconoclastes.
Allez, nous attendons toutes vos questions et réactions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Claire Destacan, Clara Marliou et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et voici une chanson de 1999. Cette année-là, disparaissaient les réalisateurs Robert Bresson et Stanley Kubrick.
Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis
je dis M, mais c'est pour vous, Julia Foyce, vous venez d'arriver en studio.
Vous voyez que vous êtes amoureux de moi, Ali.
Un peu.
Vous devriez vous couvrir parce que vous avez attrapé un rhume de cerveau.
Grand bien vous fasse.
Et ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un pochiche. Et alors, pochiche, quand il marchait dans la rue, ce petit cerveau, ça sonnait comme un gros lot de bicyclette.
Sur France Inter.
10h25 et on s'intéresse ce matin au réel danger des écrans pour nos enfants. Toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Ce que nous avons décidé de faire, c'est
débrancher le Wi-Fi
et de n'utiliser l'ordinateur que...
Quoi ?
Le soir de 20h à 20h30.
S'il est déconnecté, on fait comment ?
Il y aura un câble Ethernet dans la cuisine.
Et on vous supervisera.
On pourra plus rien faire du tout sans le Wi-Fi !
Plus de Wi-Fi ! Ah 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 !
On ne passe pas assez de temps avec sa famille quand on est sans arrêt sur son iPhone et sur l'ordi.
T'es beaucoup trop souvent sur l'ordinateur. Il faut aller jouer dehors plus souvent, être plus souvent dehors.
Oui, vous pourriez construire des choses. Vous pourriez construire un fort dans le jardin.
Quoi ? Un fort dans le jardin ?
Vous pourriez jouer à la marchande.
Oui, et puis aux osselets.
À chercher des cadavres égarés.
C'est des vrais jeux, ça. C'est super, je t'assure.
Tu fais rouler une roue de vélo avec un bâton et tu cours à côté.
C'est fini ce temps-là. On est au 21e siècle.
On peut vivre sans technologie.
Plus de technologie.
Charlotte, pose ça. Tu n'allumes pas d'écran.
Écoute ta mère un peu.
J'ai des devoirs à faire, j'en ai besoin.
L'argument qui tue.
Extrait du film 40 ans mode d'emploi et nous recevons ce matin Michel Desmurger, neuroscientifique de son état, qui publie La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Pourquoi est-ce que vous recommandez d'éviter absolument les écrans avant 6 ans ?
Alors il y a deux choses.
Vous êtes assez ferme dans votre ouvrage. Preuves scientifiques à l'appui.
Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a la littérature. Il y a la littérature qui montre qu'à cet âge-là, c'est vraiment une période de développement qui est sans équivalent dans l'existence. Donc, le temps compte. Je disais, il y a des études qui montrent des effets négatifs dès un quart d'heure par jour.
C'est une grande période de plasticité cérébrale.
Oui. Et puis c'est là que toutes les choses se mettent en place. Et puis je sais que c'est pas très sympathique à dire ou très facile à entendre, mais à un moment donné, quand ces grandes périodes de plasticité de l'enfance se ferment,
du développement.
Du développement, oui, en termes de langage, en termes d'attention, en termes de tout un tas de compétences précoces, de compétences d'activité physique, etc. Bah, quand ces périodes sont refermées, ça devient très, 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 très compliqué. Donc, c'est pas parce que ça se passe bien dans les premières années de la vie que ça va bien se passer après. On connaît les ados. Mais par contre, on sait que si l'enfant a pas été construit suffisamment, a pas reçu suffisamment de nourriture pour son développement, alors ça devient compliqué. On le sait très bien pour le langage, on le sait très bien pour l'attention et pour tout un tas de facteurs. Donc, il y a ça. Et puis, je dirais que la deuxième chose, c'est que il n'y a aucun effet positif avéré, aucun, d'utilisation des écrans avant 6 ans. Et il n'y a aucun déficit à long terme. C'est pas parce qu'un gamin n'est pas gavé d'écran avant 6 ans qu'après il aura des déficits d'utilisation informatique. Et je peux me permettre une dernière chose. On m'a longtemps pris pour un malade mental quand je disais 6 ans. L'OMS vient de sortir un rapport en disant jusqu'à un an, pas d'écran, mais ça c'est devenu standard. Et puis jusqu'à 5 ans, c'est une heure. Mais ces gens-là précisent quand même, ils sont gentils, ils précisent quand même moins c'est mieux. Donc je sais pas moins ce que c'est, mais moins c'est zéro.
Je cite l'Organisation mondiale de la santé, le temps consacré à des activités sédentaires de qualité sans écran, fondées sur l'interactivité avec des aidants, comme la lecture, le chant, des histoires racontées ou des jeux éducatifs, est capital pour le développement de l'enfant. Oui. C'est l'OMS qui le dit.
Oui, mais ça vaudra le coup de parler du développement. On parlait tout à l'heure du cerveau et du vivre avec son temps. Le développement, il a posé un certain nombre de contraintes sur le développement cérébral. La première contrainte, c'est l'humain. C'est-à-dire que le premier qui a fait ça à 5 ans, c'est Ferrari, il étudie les neurones miroirs. Vous savez, c'est les neurones qui réagissent si j'attrape
Ferrari.
Ferrari, oui. C'est-à-dire si je fais une grimace, si je fais un sourire et que je vois quelqu'un faire un sourire, c'est les mêmes neurones qui vont se mettre. Alors l'idée que ça sera important pour la lecture et le comportement social. Ferrari, un jour, il en a eu marre de faire des grimaces à ses singes. Il enregistrait leur activité et donc il a essayé de faire une vidéo de lui faisant une grimace. Et les neurones qui répondaient très très massivement à la présence humaine, à la présence vivante, répondaient quasiment plus ou plus du tout au même humain devant lui dans la même condition sur une vidéo. Depuis, ça a été refait chez l'homme, à la télé, etc. Donc, on a besoin d'humains. Le cerveau, il a besoin d'ennui. Il a besoin de tranquillité. Alors, il y a quelques dizaines d'années, on avait déjà vu dans les crèches qu'il y a des enfants qui se développaient pas bien et simplement, on avait lié ça à une sorte de surstimulation sensorielle, au bruit, etc. On peut pas contrôler toutes les études d'enfants. Par contre, on peut les contrôler chez l'animal. Et il y a des études qui montrent quand on élève des animaux dans des conditions qui sont similaires, comparables, voire identiques à celles dans lesquelles on élève nos enfants. On leur passe des bandes de Bob l'éponge ou même au niveau olfactif chez des rats, on change pendant une heure par jour, on va changer toutes les 5 minutes l'odeur, mais dans l'autre groupe, on va laisser la même odeur tout le temps. Donc on soumet ces animaux à un développement sensoriel, alors à un bombardement sensoriel qui peut être audiovisuel, encore une fois Bob l'éponge, au même niveau sonore que l'entendent nos enfants, etc. Et on s'aperçoit que ces rats, ils se développent, ces animaux en général, mais ces rats en particulier, ils se développent mal. Ils ont exactement ce que vous rapportent tous les professionnels qui sont en prise avec l'enfance. Ils ont ont des problèmes d'attention, ils ont des problèmes d'hyperactivité, ils ont des conduites à risque, ils ont un dérèglement du système de récompense qui va poser par la suite les bases de l'addiction, mais non seulement de l'addiction aux écrans, mais de l'addiction en général. Donc tout ce qu'on va décrire chez nos enfants, ils ont des troubles de motricité, etc., on va le retrouver chez ces animaux-là.
Donc pour favoriser le développement d'un enfant, avant 6 ans et après 6 ans, mieux vaut accorder beaucoup de temps aux interactions humaines plutôt qu'aux écrans.
Ah bah alors avant 6 ans, il y a aucune photo, après 6 ans non plus. C'est-à-dire que mettez un écran dans une maison, chaque heure d'écran que l'enfant va passer, par exemple entre 0 et 4 ans, vous allez lui enlever quasiment une heure d'interaction intrafamiliale. C'est monstrueux. C'est-à-dire que ils ont fait une étude rigolote, ils faisaient venir des mères comme ça et qui étaient avec leurs enfants, c'était des dyades et le but c'était de goûter des nouveaux produits, et puis donc on leur amenait toutes les 5 minutes, on leur amenait un nouveau truc à goûter, soit des trucs qu'ils connaissaient pas du tout, de l'alva, c'était aux États-Unis, etc. Et y a un tiers des mères qui ont dégainé leur portable spontanément. Et ils ont pu enregistrer comme ça les interactions verbales, les interactions, les encouragements sur les aliments qui étaient inconnus de l'enfant les plus importants, les encouragements à goûter, diminuaient de 75%, les interactions verbales diminuaient de plus d'un tiers, etc. Donc c'est vrai de l'usage des enfants, c'est vrai de l'usage que nous on en fait, et l'un des prédicteurs majeurs de l'usage des enfants, c'est l'usage que nous adultes, parce que c'est bien de dire à un gamin, oh, c'est pas bien quand on est tout le temps dessus, à un moment donné c'est compliqué aussi. Donc voilà, donc c'est un effet absolument massif sur le développement. Après 6 ans, ce que vous l'avez dit, c'est pas tout à fait la même chose. Les études, si on prend les études liées à la réussite scolaire, montrent que, alors si les contenus sont adaptés, si le sommeil est préservé, c'est-à-dire qu'un gamin de 10 ans que vous faites jouer à GTA, et j'engage les gens, parce que souvent les parents me disent, mais j'engage les gens à aller sur Internet, à taper GTA porn ou GTA violence, et vous avez des scènes d'hyperviolence, de pornographie explicite, de fellation, de coït, etc. Donc exposer un gamin de 10 ans à ça, c'est non, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Et si vous préservez le sommeil, jusqu'à une demi-heure, il n'y a pas d'effet négatif. Si on fait une lecture très 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 positive et gentille de la littérature, on peut aller jusqu'à une heure d'usage d'écran, tous écrans confondus. Au-delà d'une heure, tous écrans confondus et quels que soient les types d'écran, on commence à avoir des effets négatifs.
Plus on passe de temps à jouer aux jeux vidéo, plus les notes chutent. Quasiment toutes les études scientifiques présentes dans votre livre l'attestent.
Oui. Alors la thèse de façon expérimentale et de façon corrélative, c'est intéressant parce que vous parliez au début des études. Il y a une étude faisandée qui est sortie il y a pas longtemps, là, qui a fait le tour de la planète en expliquant que les jeux vidéo c'est bon pour les notes. Je crois que j'ai rarement vu une étude d'aussi mauvaise qualité. Cette étude elle est rigolote, mais si les gens avaient pris la peine d'aller voir ce papier, mais c'est la seule qui a été citée sur ce sujet-là. Ils auraient vu que cette étude elle prédit aussi que vous avez plus besoin d'aller à l'école parce que si vous faites vos devoirs une fois par semaine sur Internet, bah vous pouvez rater 3 fois l'école. Cette étude elle vous explique, à partir des, les données sont complètement faisandées, elle vous explique que les enfants des milieux extrêmement défavorisés à l'aide sociale ont de bien meilleures notes que les autres. Donc on voit quand même qu'il y a quand même des problèmes. Pourtant, cette étude fait la une. Et toutes les études bien faites, on n'entend pas parler. Il y en a une que j'ai trouvée sympathique, je ne sais pas si on peut en 30 secondes, mais elle est assez fourbe. On ne pourrait pas la faire en France, mais ils l'ont faite aux États-Unis. Ils ont moins de soucis éthiques que nous, apparemment. Ils ont pris des enfants qui avaient aucune difficulté scolaire, dans des familles de niveau plutôt socialement favorisé, qui n'avaient pas de jeux vidéo. Et ces enfants-là, ils leur ont dit, on va faire une étude sur le développement. On peut pas vous payer. Donc, ce qu'on va faire, on va vous offrir une console de jeu. Et la moitié du groupe, on leur a donné la console au début de l'étude. Et l'autre moitié du groupe, on leur a dit, on vous donnera la console après. Et c'est assez génial parce que vous pouvez, comme ça, en comparant les deux groupes, qui sont comparables, vous pouvez regarder l'effet des écrans. Ça a pas duré très longtemps, ça a duré 4 mois. Et en 4 mois, on s'est aperçu que vous diminuez par 2 le temps passé à faire les devoirs. Vous touchez le sommeil. Ça, il y a plein d'autres études qui le montrent.
L'attention, la concentration.
Vous touchez la réussite scolaire. Dans cette étude-là, vous touchez la réussite scolaire, vous touchez le temps consacré au devoir, vous touchez le sommeil. Et ça représente, en 4 mois, c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même, en fonction des matières, entre 5 et 10% sur la moyenne de l'enfant. Je ne sais pas si on peut faire plus causal que ce genre de choses. Ça a été refait à l'université et on obtient toujours les mêmes résultats. Et c'est une étude parmi des dizaines.
Bonjour Arnaud, bienvenue.
Oui, bonjour. Donc moi, je suis père de 3 enfants. Le plus grand vient d'entrer en 4e et il a toujours pas de téléphone. C'est une vraie catastrophe dans sa vie sociale, nous dit-il. Mm-hmm. Donc on a beau lui faire lire des articles, lui parler de Tisseron, je lui ai fait écouter l'interview de Snowden de lundi, etc., sur tous les dangers, quoi. Lui dire que tous les patrons du GAFA mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran et qu'ils sont tous démissionnés. Il est quand même super dur de entretenir cette posture. Effectivement, on est tout à fait conscient des dangers du téléphone et des écrans, mais quand on est parent, c'est hyper compliqué de tenir cette posture, même en étayant par des articles scientifiques. Hein. On leur dit que c'est pas une lubie des parents, et eux, ils nous reprochent vraiment d'être désocialisés parce qu'ils sont pas sur Snapchat, ouais. Instagram, etc. Parce qu'effectivement, la vie de ces jeunes se passe sur Snapchat, Instagram, enfin la vie virtuelle, quoi. Et du coup, il dit ouais, mais moi je suis pas au courant de ce qui se passe, je suis pas invité, etc. Et c'est quand même très très compliqué, quoi.
Excellent témoignage d'Arnaud, mais Arnaud Franck, agriculteur dans le Lot, nous fait à peu près la même réflexion. Il nous dit, nous avons limité l'usage de Fortnite à notre fils qui est en quatrième au week-end et maximum 2 heures par jour. Il joue en réseau avec ses copains, il discute avec eux lorsqu'il joue. On ne peut pas lui interdire complètement, sinon il a l'impression d'être à la marge par rapport à ses copains. Voilà deux témoignages, Michel Démurger, qui vont dans le même sens, avec cette peur de la désocialisation et entre guillemets de l'exclusion.
Alors, cette bonne guerre de la part des enfants quand ils veulent une console ou un téléphone portable.
Vous êtes vous-même père de famille.
Oui, mais c'est de bonne guerre. Alors, par contre, moi, ce que je peux vous répondre, c'est que d'une part, mieux vaut prévenir que guérir, c'est-à-dire plus on commence tôt à expliquer aux enfants, et mieux ça se passe. À l'adolescence, bah, ça devient effectivement plus compliqué. Il faut pas imposer. Je crois qu'il faut vraiment expliquer, même si ça fait pas tout. Ce que je dirais, c'est deux choses. J'ai beaucoup de parents qui me disent, c'était difficile, on a tenu, mes enfants me remercient. Voilà, à un moment donné. Et puis surtout sur le fond, il y a énormément d'études qui montrent des déficits à l'usage du smartphone, des 1 heure, des 3/4 d'heure par jour.
Des déficits
de réussite scolaire,
d'attention.
Des déficits émotionnels, des déficits d'attention effectivement.
Des 1 heure par jour,
oui, clairement, oui, des 1 heure par jour. Alors là, la littérature est absolument claire. Il commence à y avoir une littérature absolument importante sur l'effet que ça peut avoir au niveau de la santé mentale. Il y a encore une étude dans JAMA Pédiatrique, c'est pas Oui Oui Magazine, quoi, qui vient de sortir il y a pas longtemps, très bien contrôlée, qui montre qu'à partir de 3 heures d'usage par jour pour celle-là, on a des problèmes de troubles émotionnels, les troubles de la santé mentale. Il y a beaucoup d'études qui lient l'usage des écrans. Alors, dès 1 heure par jour pour certaines, mais là, plutôt au niveau de 2 heures par jour, qui lient ça à des troubles de la dépression, des troubles de l'anxiété, des troubles, il y a même des études qui disent ça au suicide, aux tentatives de suicide. Alors quand on dit ça, on passe pour un dingue, sauf que c'est très lié au sommeil. Donc vous touchez le sommeil, et quand vous touchez le sommeil, l'un des facteurs causaux de ces choses-là, c'est effectivement le sommeil. Et par contre, pour finir, je connais plein d'études qui montrent des effets négatifs. Je n'en connais aucune qui montre un effet négatif parce que l'enfant n'en est pas. Il va râler comme un putois, c'est clair. Mais il n'y a aucune étude qui montre que ça a un effet négatif sur ses émotions, sur sa vie sociale et sur sa vie intellectuelle. Au contraire.
Merci beaucoup Arnaud de nous avoir appelés. Allez, il est temps de retrouver la chronique Passons Genre de Julia Foyce.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
C'est un garçon ou une fille?
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je réclame le droit de fille, voilà.
Julia Foyce, bonjour.
Bonjour,
alors, vous folâtrez sur la douce planète du genre chaque semaine entre moutons roses et brebis bleues, à moins que ce ne soit à l'inverse, mais aujourd'hui, ce matin, vous avez plutôt envie, la grosse envie, de foncer dans le tas.
Vous l'avez vu passer, cette toute dernière étude américaine sur le consentement, hein, c'est la première fois qu'une recherche est conduite à ce niveau-là, sur ce sujet-là. 13 000 femmes âgées de 18 à 44 ans racontent les circonstances de leur premier rapport sexuel, ce qui en soi est une bonne nouvelle. Que 2 ans après MeToo, on continue de sonder la vie intime des femmes, et notamment cette question du consentement. Évidemment, ça va dans le bon sens, hein, le silence protège toujours les agresseurs. C'est parce qu'ils savent que leurs victimes ne parlent pas la plupart du temps, et que quand elles le font, elles sont rarement entendues, qu'ils agressent, qu'ils frappent ou qu'ils violent. Pas fou les gars, hein. S'ils étaient 100% assurés de finir en taule, ils y réfléchiraient à 2 fois. Et donc oui, surtout continuons à parler, à interroger, à enquêter. Cette étude, c'est un pas de plus pour comprendre l'étendue des violences sexuelles, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont planétaires. Car, résultat, je cite l'enquête, hein, aux États-Unis, plus de 6,5% des femmes ont connu un premier rapport non consenti, soit une femme sur 16, soit à échelle du pays, 3 millions de femmes de cette tranche d'âge. C'est beaucoup. Alors ces chiffres, bien sûr, font rarement plaisir, mais ce matin, ça n'est pas tellement eux qui me posent problème, c'est plutôt les mots choisis pour en parler. Ça s'appelle comment déjà quand une femme dit « non, je ne veux pas coucher avec toi » et qu'on la pénètre quand même, ça s'appelle hein ?
Un viol ?
C'est ça, c'est exactement ça. Ça s'appelle un viol, pas un rapport non consenti, même si c'est plus doux, même si c'est plus joli. Pourtant, le droit américain est très clair, on parle de viol dès qu'il y a pénétration, même légère, du vagin ou de l'anus avec une quelconque partie du corps ou un quelconque objet sans le consentement de la victime. Alors quand ces femmes disent avoir subi ce jour-là, ce matin-là, ce soir-là, des pressions verbales, des insultes, des menaces, quand elles ont été maintenues de force, voire sanglées, sur un lit ou à même le sol, quand elles racontent qu'on les a fait boire, qu'on les a droguées, qu'on les a frappées avant de les pénétrer, eh ben ça s'appelle un viol. Or, d'un bout à l'autre de l'enquête, on n'en parle pas, on ne le dit pas jamais. Ali, petite question, vous préférez Camus ou de Beauvoir ?
Les deux, mon capitaine.
Eh ben voilà, vous les aurez. Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'était ajouter du malheur au monde. Ne pas nommer ces viols, ne pas les reconnaître comme tels, c'est ne pas reconnaître celles qui en sont victimes, c'est nier la souffrance de ces femmes, c'est effacer d'un trait la réalité de ce qu'elles ont vécu. Ces filles-là, ces femmes-là, n'ont pas eu, comme le dit le rapport, une initiation sexuelle forcée. Leur partenaire n'est pas une sorte de Pygmalion, un petit peu rusto qui leur apprendrait la vie sans y mettre les formes. Face à elle, ce soir-là, ce matin-là, il y avait un violeur. C'est beaucoup moins romantique, certes, mais c'est un tout petit peu plus honnête. En revanche, oui, comme Pygmalion, ces hommes étaient en général beaucoup plus âgés, nous dit l'enquête, et à l'inverse, ça marche aussi, hein, ces femmes étaient en général beaucoup plus jeunes. Elles étaient aussi plutôt noires, plutôt pauvres, ou plutôt peu éduquées, bien souvent malades physiquement, affaiblies donc, ou encore handicapées. On est donc bien ici dans un rapport de domination, voire d'écrasement de l'autre, et à tous les étages. Or, les termes choisis par l'enquête convoquent un tout autre imaginaire. Quand on vous parle d'expérience sexuelle contrainte, par exemple, à votre avis, est-ce que ces filles-là, elles ont fait une expérience un peu comme un petit chimiste, hein, mais sans les éprouvettes ? C'est un peu léger, quand même, ce terme d'expérience pour désigner ce jour, ce soir, ce moment de leur vie, où elles ont compris que leur corps ne leur appartenait pas, et qu'elles ne valait rien vu que l'autre en face pouvait en faire ce qu'il voulait juste parce qu'il le voulait. Vous diriez, vous, j'ai fait l'expérience du cancer ou de la chaise électrique ? Non, non, vous le diriez pas. Et quand l'enquête parle de première fois, alors certes, ils ajoutent forcé, mais la première fois, c'est la première fois de quoi, en fait ? La première fois qu'elles ont été violées parce qu'après, il y en aura d'autres ? Non. Je pense pas. Et quand on parle de nos premières fois, c'est plutôt pour évoquer en général le tout premier rapport sexuel, voire la première fois qu'on a fait l'amour. C'est cette expression-là qu'on emploie. Ces filles-là, ce soir-là, ce jour-là, n'ont pas fait l'amour pour la première fois. Elles n'ont pas fait l'expérience de la sexualité. Le viol n'est pas une sexualité. Le viol est une violence qui utilise le sexe comme lieu et comme arme du crime. Nuance. Le seul désir qui soit en jeu ici, c'est pas de séduire l'autre, mais c'est bien de le détruire comme sujet pour le réduire à l'état d'objet. On dit souvent que le viol est un meurtre sans cadavre. C'est exactement ça, Ali, et c'est bien plus affreux qu'une première fois qu'on n'a pas adoré parce qu'on était tous les deux amoureux, donc un peu hésitant, donc un peu maladroit, mais c'est pas grave parce qu'on fera mieux la prochaine fois. Là, il n'y aura pas de prochaine fois. Je le leur souhaite, en tout cas le plus profondément à toutes ces femmes qui ont eu le courage de témoigner. Parce que, comme le disait Simone de Beauvoir, vous voyez, je vous la donne, votre Simone, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est agir. Elles ont parlé, on avancera, mais on ne gagnera cette lutte engagée depuis 2 ans maintenant que si on nomme correctement les choses. Je sais, ça fait mal aux yeux, ça fait mal au cœur, ça fait mal aux oreilles. Ça écorne le conte de fées du dépucelage de princesse, ça égratigne le prince charmant, mais la réalité, elle est celle-là. Aux États-Unis, une femme sur 16 est vierge lorsqu'elle est violée pour la première fois. Ces femmes-là ont été violées, rien à ajouter.
La chronique Passons Genre, combative et émue de Julia Foyce sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Au programme demain, ma chère Julia, de Passons Genre, l'émission à 20h.
Eh ben, on va parler séries, sexe, genre et séries et comment les séries ont impulsé une forme de révolution des mentalités. Voilà.
À demain à 20h, oui, Julia Foyce. Allez, dans quelques instants, nous continuons d'explorer, bah, quelques effets délétères des écrans. Question-réaction au 01 45 24 7000.
Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now.
Désolé, Julia, je vous
coupe
le sifflet.
Non, mais je me sens bridée, moi, dans cette émission.
Vous discutez avec notre invité de façon passionnée. Je vous dis juste qu'on va arriver et qu'il il est temps de désannoncer Jungle.
Je ne me dirai jamais.
Jungle qui interprétait Casio.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
10h46, on s'intéresse ce matin au réel danger des écrans pour nos enfants. 01 45 24 7000.
Aujourd'hui, tout le monde a le nez collé au téléphone pour jouer, lire, regarder des vidéos. Les smartphones et les tablettes sont devenus si performants qu'il est difficile de résister à toutes les possibilités qu'ils offrent. Et même quand on n'a pas de portable, impossible d'éviter la télé, l'ordinateur, le smartphone du copain. Mais quelle place accorder aux écrans dans ta vie? Tout est question de dosage, car on observe que le développement du cerveau est ralenti quand on passe trop de temps sur un écran. Or, quand on est enfant, le cerveau, comme le corps, est en pleine croissance. C'est le cas pour les bébés, qui mettent plus de temps à enrichir leur vocabulaire si la télé est toujours allumée chez eux. Les spécialistes recommandent donc d'éviter les écrans le plus possible avant 3 ans.
Et notre invité, le neuroscientifique Michel Desmurgés, va même plus loin. Interdiction des écrans pour les moins de 6 ans. Hein, Michel Desmurgés, alors, vous l'avez dit tout à l'heure.
Interdiction, je ne sais pas si on parle d'interdiction, mais en tout cas, je conseille. Mais je suis pas, encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'OMS, on peut parler de Taïwan. Taïwan considère que les écrans, c'est une vraie maltraitance développementale. Et ils ont passé une loi, ces gens-là. Si vous mettez un enfant de moins de 2 ans devant un écran, quel qu'il soit, vous prenez 1500 euros de prune. Et si vous mettrez un enfant entre 2 et 18 ans devant un écran, quel qu'il soit, de façon, ils disent excessive, ils définissent ça comme 30 minutes consécutives, c'est 1500 euros de prune, parce qu'ils considèrent que c'est une vraie maltraitance développementale. Et ces gens-là sont pas de dangereux réacs.
Certains auditeurs nous reprochent une émission anxiogène et culpabilisante.
Comment dire? Je sais pas si c'est culpabilisant de dire aux gens qui fument ça donne le cancer, mais en tout cas, si moi je fumais, j'aimerais le savoir. Il s'agit pas de culpabiliser les gens, il s'agit pas de leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire avec leurs enfants. Je crois, cela étant dit, que on ne peut faire des choix qui sont éclairés, des choix qui tiennent debout, que quand on a des informations, pertinentes. C'est bien de savoir ce rapport quand on l'entend. On percute pas, par exemple, si on venait de parler sur le viol, on percute pas que le mot viol est pas là, mais quand on l'entend et quand vous le dit, c'est plus anxiogène. Mais en tout cas, ça mérite d'être dit parce que vous comprenez les choses différemment et vous pouvez du coup adapter votre posture entre guillemets à ces infos.
Un auditeur vous reproche d'être aussi affirmatif. Il nous dit qu'il y a tant de biais dans la maturation de nos cerveaux et dans les acquisitions, mais il comprend pas que vous soyez aussi affirmatif.
Alors, qu'il y ait beaucoup de facteurs qui président à la formation d'un cerveau, personne ne le discute. Il y a des choses qu'on sait pas. Cela étant dit, il y a un certain nombre de choses qu'on sait. Je veux dire, si vous mettez un écran dans un salon, s'il n'y a pas d'écran, l'enfant, il entend 1000 mots par heure. S'il y a un écran, il en entend 150. Il y a des dizaines d'études qui montrent que le nombre de mots d'interaction verbale qu'un enfant va avoir dans ses 4-5 premières années de vie va prédire son développement intellectuel complet. C'est-à-dire qu'il y a encore une étude qui vient de sortir qui montre que ils ont accroché des enregistreurs à la culotte des gamins, c'est rigolo, qui ont été après, et on enregistrait le nombre de mots. Le nombre de mots que l'enfant va entendre entre 18 et 24, 36 mois, va prédire son QI à l'adolescence. Ça explique un quart des variations des QI de la population. Un quart des variations. Donc ces choses-là, on le sait. Donc il y a des espaces d'incertitude, mais il y a aussi beaucoup d'espaces de certitude, et il y a beaucoup plus d'espaces de certitude que ce qu'on veut bien nous dire en général.
Bienvenue Fernande, vous êtes enseignante. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
Oui, je suis enseignante en lycée à Aix-en-Provence et le conseil régional nous a demandé de choisir entre les livres papier pour nos élèves ou une tablette dans laquelle seraient téléchargés tous les livres de manière numérique. Et donc ça a soulevé énormément de débats au sein de l'équipe, les uns nous disant que en fait c'était leur monde, c'était leur univers, il fallait aller vers l'univers des élèves, et les autres disaient que c'était pas du tout la baguette magique du 21e siècle et que les apprentissages ne se passaient pas forcément au travers du numérique. Nous avons voté, et malheureusement pour moi, parce que je suis vraiment totalement en accord avec vous ce matin, les enseignants ont en majorité choisi que les élèves aient des tablettes. Voilà, donc on doit travailler aujourd'hui avec. Les élèves doivent le soir ouvrir leur tablette pour faire leurs exercices. et ce que je trouve absolument catastrophique. Mmh. Voilà.
Pour aller dans votre sens, Noémie nous dit, dans la classe de ma fille qui vient d'entrer en CP, se trouve un écran numérique qui remplace le tableau à créer. Qu'en pensez de tout ça, Michel Desmurgés ?
Il faudrait beaucoup de temps vers le numérique à l'école. Il y a un certain nombre de choses. Il y a l'apprentissage du numérique. Est-ce qu'il faut apprendre à la maternelle, comme ça se fait maintenant, comme c'est dans les programmes, utiliser une caméra numérique ? J'en sais rien. J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il faut que les gamins apprennent à utiliser Word, Excel ? J'en sais rien à un certain moment. Et il y a l'apprentissage par le numérique. Si les gamins utilisent une tablette juste pour dessus, ils mettent leurs livres, oh mes grands dieux, ils ont ma bénédiction et il n'y a pas de problème. Cela étant dit, ce que montrent les études, notamment les dernières études PISA, mais toutes les études internationales de grande ampleur, c'est que plus vous numérisez le système, et plus les résultats des enfants chutent. Mais c'est dantesque, hein, le rapport PISA. C'est vraiment.
Rappelez-nous ce qu'est le rapport PISA.
Le rapport, c'est des études internationales qui comparent les systèmes scolaires. Plus la numérisation a été importante et plus les résultats des élèves sont tombés. En fait, je crois qu'on peut résumer ça pour les tablettes, par exemple, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire que si vous lisez le même livre sur une tablette ou sur le livre, même ces fameux digital natives qui sont nés dedans vont un peu mieux comprendre sur le livre, et puis surtout ils vont par exemple mieux retenir la chronologie des événements, parce qu'un livre il a une épaisseur, vous savez, par exemple sur une leçon d'histoire, vous savez que Vercingétorix c'est au début et puis que De Gaulle c'est à la fin, et le cerveau il vous le dit pas mais il enregistre ces informations. Après, pour le numérique à l'école, il vaut mieux du numérique que de mettre un enfant dans un placard tout seul, pas de problème. Si vous prenez un enseignant compétent versus du numérique, c'est toujours l'enseignant compétent. Il n'y a jamais photo. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que si vous prenez un enseignant compétent plus du numérique, c'est sympa, le mec va vous dire c'est bien, il n'y a quasiment aucun effet, il y a plein d'effets, il n'y a quasiment aucun effet pédagogique. Un enseignant plus au numérique, ça coûte cher et c'est pas vraiment mieux qu'un enseignant. Par contre, quand vous avez des problèmes pour recruter les enseignants, que ça coûte cher, que vous n'en avez plus à trouver assez d'enseignants, notamment des profs de maths, etc., bah, le numérique, ça devient quand même une solution assez tentante.
Merci beaucoup, Fernand, de nous avoir appelé. Alors, dans votre livre, La fabrique du crétin digital, vous insistez sur l'impact des outils numériques sur le langage, avec par exemple l'appauvrissement du vocabulaire écrit, et vous vous appuyez par exemple sur la réécriture simplifiée de Fantomètre et du Club des Cinq dans la Bibliothèque Rose. Pour vous, c'est l'un des effets connexes du numérique sur le langage et sur le vocabulaire.
Oui, alors il y a sûrement plusieurs...
Expliquez-nous.
On peut trouver plusieurs causes, mais c'est simple. Le développement du langage, il dépend, un, des interactions verbales précoces chez l'enfant. C'est-à-dire, et on a vu qu'elles étaient effondrées, qu'elles sont effondrées de façon extrêmement importante quand on rentre un écran. Et puis deux, après, elles développent de la lecture. J'ai une amie orthophoniste qui me disait, mon fils parle deux langues, il parle l'oral et l'écrit. Et on parle pas de la même façon à l'écrit et à l'oral. Et donc, il y a des formes syntaxiques, il y a des mots relativement simples, comme gravité, comme superfétatoire, comme je sais pas, des mots qu'il faut connaître, superfétatoire peut-être pas, mais voilà, voilà. Et ces mots-là, on les trouve très souvent à l'écrit, on les trouve très peu. Il y a 40% des gamins de troisième qui, dans une étude de brevet, connaissaient pas le mot infernal. C'est un truc de dingue. Voilà. Et il a fallu réécrire tous les bouquins de Bibliothèque Rose, les Fantomètres, les Club des Cinq. J'ai pris le Club des Cinq. Vous avez perdu 40%. J'ai regardé quelques chapitres. Vous avez perdu 40% du vocabulaire. Des phrases comme nous arrêtâmes pique-niquer dans un cadre champêtre agréable à souhait, c'est devenu on pique-nique en haut de la colline. Mmh. Tout est passé au présent parce qu'il n'y a plus de passé, il n'y a plus de passé simple, etc.
Michel Desmurgés, vous consacrez un chapitre au risque sur la santé. Ça mériterait une émission entière.
Oui.
Vous écrivez que ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable du point de vue de la santé. Prenons le sommeil, tout simplement.
Il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas toucher chez un gamin. Il ne faut pas toucher le langage, il ne faut pas toucher l'attention, il ne faut pas toucher l'activité physique, il ne faut pas toucher le sommeil. Et prendre au sommeil pour leur faire regarder Joséphine, ange gardien, le soir, qui ne va pas vraiment nourrir le soir. Ou jouer à un jeu vidéo ou n'importe quoi, c'est un truc de dingue. Le sommeil, il contrôle tout notre développement. Je veux dire, il contrôle la mémoire, il contrôle le système immunitaire, il contrôle la santé, il contrôle... Le système, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et plus les enfants passent de temps avec les écrans, plus ce temps, il faut bien le prendre quelque part. Un ado, c'est plus de 6h30 par jour. Il faut bien le prendre à un moment donné.
Michel Desmurgés, qu'est-ce qu'on fait? On se résigne, on baisse les bras. Après ce constat terrible, vous évoquez dans votre livre 7 règles à mettre en place à la maison. Quelle est la plus fondamentale pour vous?
Ça dépend de l'âge. Avant 6 ans, préservez-les. Autant que faire se peut. En tout cas, moi, c'est le message. Alors, si vous allez de temps en temps au cinéma avec votre gamin, il n'y a évidemment aucun problème. Au-delà de 6 ans, une demi-heure, pas plus d'une heure de toute façon. Une demi-heure, c'est bien de continuer à adapter. Mais il y a un truc de dingue, c'est que ça m'énerve. Hein. Avant, quand les enfants s'amusaient, on était content parce que ça les construisait. Maintenant, avec les écrans, on est content parce qu'ils peuvent les utiliser jusqu'à une heure et ça pourrit pas leur cerveau.
Et vous réhabilitez l'ennui.
Ah bah l'ennui, oui.
Pourquoi
l'humain et l'ennui? Mais parce que le cerveau, il a besoin de s'ennuyer, il se construit, il y a des liens maintenant entre ennui et mémoire. Voilà, après, il y a un certain nombre de choses qu'il faut pas faire. Faut respecter le sommeil, vous l'avez dit. Pas le matin avant l'école parce que ça a des effets sur l'attention, etc. Donc, voilà, pas pendant les repas pour conserver. Il y a un certain nombre de règles assez simples. Et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui montre que quand vous appliquez un certain nombre de règles simples et que vous les expliquez, alors vous passez pas à zéro, mais vous diminuez quasiment par deux le temps d'écran des enfants. Donc même des règles simples peuvent permettre de diminuer ça. Encore une fois, il faut se méfier des trucs du genre c'est trop, c'est excessif, tout baratin usuel, voilà, quand c'est excessif. L'excès, il commence à une demi-heure, voire si on est super optimiste, il commence à une heure pour les enfants de plus de 6 ans et il commence à un quart d'heure pour les enfants de moins.
Bah vous l'aurez compris, le livre de Michel Desmurgés, publié au Seuil, est un ouvrage, de mon point de vue, de salubrité publique. La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants, c'est publié donc au Seuil. Merci beaucoup Michel Desmurgés. Je pense que vous reviendrez dans cette émission pour évoquer d'autres aspects de votre livre. Merci. Demain, on s'intéresse aux liens très particuliers que nous entretenons avec les photos de famille. Ça va intéresser Julia Foy, j'en suis sûr, ça, les photos de famille.
Hein, j'adore, j'en ai plein, surtout s'il y a mon fils dessus.
Ah bah ça c'est sûr, oui. On le salue d'ailleurs. Pas d'écran, hein, vous avez entendu. Hein.
Ah non, mais ans, non, en fait, hein, non. Mais il a moins de 3 ans, donc c'est plus... Enfin non, il a 3 ans, j'ai
l'air mon fils. Il a 3 ans, je crois. Je le sais mieux que vous.
Donc c'est plus facile.
Voilà, à demain et dans quelques instants, Nagui et sa bande originale.